Laudetur Jesus Christus.
Douzième anniversaire de l'élection du pape François au trône de Pierre, un anniversaire particulier cette année en raison de la maladie et de l'hospitalisation du souverain pontife. Les messages affluent du monde entier, nous entendrons celui de l'évêque auxiliaire de Buenos Aires, Monseigneur Giobando. Nous profitons de ce jour spécial pour revenir sur le message que le pape depuis plusieurs mois déjà nous livre sur la fragilité de l'homme. Nous le ferons avec Marie Jotil, membre de l'Académie pontificale pour la vie. Ce sera dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal. La Russie ne s'est toujours pas exprimée sur la proposition de trêve de 30 jours présentée par les États-Unis et acceptée par l'Ukraine. Vladimir Poutine, en attendant, se montre pour la première fois sur le terrain dans la région de Koursk, trahi sur les épaules. Le Soudan en guerre depuis bientôt 2 ans, pire crise humanitaire au monde, constat de l'ONU partagé par MSF. L'ONG a dû suspendre ses activités dans le camp de Zamzam au Darfour il y a un mois, un échec estime-t-elle. Crainte d'une reprise de la guerre civile, cette fois au Tigré, dans le nord de l'Éthiopie, une faction dissidente du Front de Libération du Peuple du Tigré s'est emparée de 3 villes depuis le début de la semaine.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. Le 13 mars 2013, Jorge Mario Bergoglio était élu pape sous le nom de François. 12 ans plus tard, c'est à l'hôpital Gemelli que le Saint-Père va célébrer cet anniversaire. Hier soir, la salle de presse du Saint-Siège a confirmé les progrès constatés ces derniers jours. L'état de santé s'améliore légèrement, mais François continue toutefois de bénéficier d'une oxygénation à haut débit pendant la journée et d'une ventilation mécanique non invasive pendant la nuit, ce qui ne l'empêche pas de suivre par vidéo les exercices spirituels de carême de la curie romaine et de recevoir chaque jour des messages et des vœux de bon rétablissement. Parmi les souhaits qui lui sont adressés, plus spécialement pour cet anniversaire, ceux de Monseigneur Ernesto Giobando, c'est l'évêque auxiliaire de Buenos Aires.
Primero la salud, que el Papa pueda recuperarse.
Tout d'abord, nous lui souhaitons la santé. Puisse le pape se rétablir et continuer à donner son témoignage des dévouements à l'Église. J'espère que le pape pourra continuer, aussi longtemps que Dieu le permettra, à nous accompagner et à guider l'Église en cette période. De nombreuses personnes éloignées de l'Église, non pratiquants ou non catholiques, m'ont dit en diverses circonstances qu'il y a très peu de leaders dans le monde. L'un d'eux est François. Je pense qu'il est un leader parce que même les personnes que nous appelons importantes dans ce monde vont lui rendre visite et les pauvres lui font confiance. C'est donc un signe que son ministère pétrinien vient de Dieu parce qu'il n'est pas seulement destiné aux puissants, mais aussi aux plus humbles, aux plus petits, pour lesquels le pape a un cœur énorme.
Des propos recueillis par Antonella Palermo de la rédaction italienne de Radio Vatican. Dans le reste de l'actualité, pour la première fois depuis la percée ukrainienne du mois d'août dernier, Vladimir Poutine s'est rendu hier dans la région de Koursk, mais c'est en uniforme militaire que le président russe a assisté à une réunion d'état-major. L'occasion pour lui d'ordonner à ses troupes de libérer la région des forces ukrainiennes. À Moscou, Jean-Didier Revoy.
Alors que la Russie est sommée par Kiev et Washington de se prononcer sur la mise en œuvre d'un cessez-le-feu de 30 jours, Vladimir Poutine a une nouvelle fois brouillé les pistes. C'est en uniforme, ce qui est extrêmement rare, que le commandant en chef de l'armée russe s'est rendu dans la région de Koursk pour ordonner à ses troupes de poursuivre le combat jusqu'à ce que tous les soldats ukrainiens soient chassés de cette région russe frontalière de l'Ukraine. Il a en outre affirmé que ceux qui s'opposaient à la Russie dans cette région étaient des terroristes et qu'ils devaient être traités comme tels, sachant que Moscou revendique avoir fait 430 prisonniers. Enfin, le président russe a proposé la création d'une zone de sécurité le long de la frontière de la région. Des propos tenus dans un décorum qui laisse difficilement présager de la mise en place rapide d'un cessez-le-feu, alors que Donald Trump précisait dans le même temps qu'une équipe de négociateurs était en route pour la Russie. À moins qu'il ne s'agisse pour le président russe de mettre ses négociateurs sous pression pour imposer à l'Ukraine dans les prochains jours un cessez-le-feu aux conditions de la Russie, dont on sait qu'elle n'a jamais voulu d'une trêve temporaire. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican.
Et en attendant une hypothétique trêve, la guerre se poursuit bien avec cette attaque de drones ukrainiens cette nuit sur la Russie. Moscou affirme avoir abattu 77 appareils au-dessus de différentes régions du pays. En Ukraine, à Kherson, dans le sud du pays, un bombardement russe a tué une personne, annonce des autorités militaires. militaire local. Autre conflit beaucoup moins médiatique, la guerre civile qui dévaste le Soudan depuis bientôt 2 ans. Selon l'ONU, elle provoque la pire catastrophe humanitaire actuellement au monde. Ce constat, il est partagé par Médecins sans frontières qui opèrent sur place dans divers endroits du pays. Mais ces conditions de travail sont parfois plus que difficiles, à tel point que MSF a dû suspendre le mois dernier ses activités dans le camp de déplacés de Zamzam au nord d'Arfour. Un échec pour l'organisation comme pour l'ensemble de la communauté internationale, estime Marco Bertotto, directeur des programmes de MSF Italie.
Un Soudanais sur 2 qui vit une situation d'insécurité alimentaire.
Un Soudanais sur 2 vit dans une situation d'insécurité alimentaire. Et un Soudanais sur 5 a été forcé de quitter sa maison. Ce sont des chiffres qui témoignent de l'échec de la communauté internationale à intervenir dans une crise humanitaire d'une proportion énorme. Dans le camp de Zamzam, nous avons dû partir. C'est un échec car on a été forcé à fuir. En février dernier, nous avons été contraints d'y interrompre nos activités en laissant seuls et sans assistance humanitaire de base 500 000 personnes qui vivent dans ce camp. Tout cela parce que les conditions de sécurité n'étaient plus garanties pour que nos employés puissent poursuivre leurs activités, qui est de sauver des vies. Nous lançons un appel pour que l'on redonne de la visibilité à cette crise, une crise oubliée. La crise humanitaire n'est pas seulement la conséquence du conflit. Elle est le fruit d'une stratégie délibérée des belligérants qui utilisent l'aide comme arme de guerre. Mais c'est aussi le résultat d'un échec de ceux qui auraient dû mettre en place une stratégie humanitaire plus efficace et ne le font pas.
Non lo sta facendo.
Des propos recueillis par Giada Aquilino du programme italien de Radio Vatican. Les autorités congolaises et les rebelles du M23 pourraient se retrouver pour des négociations de paix directes dès mardi prochain à Luanda, la capitale de l'Angola. C'est ce qu'a annoncé hier la présidence angolaise qui assure une médiation entre les deux belligérants. Mais ni la présidence congolaise ni le M23 n'ont pour le moment confirmé leur présence à la table des négociations. La guerre dans l'est de la RDC, elle sera aujourd'hui abordée également lors du sommet extraordinaire de la SADC, la Communauté de Développement d'Afrique australe. Les chefs d'État de la région se pencheront notamment sur l'avenir de la force armée déployée au Congo sous la bannière de la SADC. La guerre est-elle sur le point de reprendre au Tigré, dans le nord de l'Éthiopie, une faction dissidente du Front de Libération du Peuple du Tigré a en effet pris le contrôle de 3 villes depuis mardi, ce qui fait donc planer le spectre d'un retour à la guerre. Les précisions d'Augustine Passy.
Les fusils se sont tués au Tigré depuis l'accord de Pretoria en novembre 2022. Pourtant, la mise en œuvre de ce traité, qui a mis fin à 2 années de guerre entre le gouvernement fédéral et le Front de Libération du Peuple du Tigré, tarde. Excédé par ces délais, une faction du Front de Libération du Peuple du Tigré, présidée par Debreston Gebremichael, a pris le contrôle des villes d'Adigrat et d'Adigoudem mardi, puis de Hagere Selam hier. Ce changement de direction est salué par bon nombre de Tigréens. La réalité est qu'au Tigré, nous avons 2 gouvernements. Le vrai gouvernement, élu par la population locale, et le gouvernement intérimaire nommé par le Premier ministre Abiy Ahmed après le cessez-le-feu. Mais depuis 2 ans, aucun changement n'a été constaté sur le terrain et 1,2 million de déplacés attendent toujours de rentrer chez eux, m'a expliqué le prêtre catholique d'Adigrat, Abba Hagos Woldou. Des manifestations en soutien à l'administration intérimaire dirigée par Getachew Reda ont toutefois éclaté. Elles ont été réprimées par balles, faisant plusieurs blessés. Furieux, Getachew Reda a appelé le gouvernement fédéral à intervenir, faisant craindre une nouvelle escalade militaire. Beaucoup d'observateurs redoutent en outre le retour à la guerre avec l'Érythrée voisine, dont les relations avec Addis Abeba sont devenues exécrables. Addis Abeba, Augustine Passy pour Radio Vatican.
Les États-Unis font pression sur l'Iran et son programme nucléaire. Washington presse le Conseil de sécurité de l'ONU d'être uni pour condamner clairement le comportement qualifié d'éhonté de Téhéran sur ce programme. Donald Trump, dans le même temps, a fait parvenir une lettre aux autorités iraniennes. Le président américain s'est dit prêt auparavant au dialogue et à un deal sur le nucléaire. Mais cet appel du pied ne convainc pas pour le moment le guide suprême iranien. Ali Khamenei estime qu'il s'agit là d'une manœuvre pour tromper l'opinion publique mondiale. À peine arrivé à La Haye hier, à la Cour pénale internationale, Rodrigo Duterte dit assumer ses responsabilités. L'ancien président philippin est accusé par la justice internationale de crimes présumés lors de sa guerre contre la drogue. La CPI évoque même de possibles crimes contre l'humanité. Il devrait comparaître une première fois devant la Cour dans les prochains jours. Retour sur cet anniversaire de l'élection du pape si particulier cette année dans notre dossier. Depuis 12 ans, François ne s'est pas ménagé. Ardent défenseur d'une église missionnaire en sortie, il a appelé à aller chercher ceux qui sont loin et à arriver aux croisées des chemins pour inviter les exclus, les plus vulnérables. Le pape constructeur d'une église hôpital de campagne a toujours dénoncé la culture du rejet, répétant que la grandeur d'une société se mesure à sa capacité d'accueillir les plus fragiles, les malades, les plus âgés, se juger moins productifs. Avec 3 voyages apostoliques à l'étranger en 2024, le pape a témoigné d'une grande vitalité, mais son corps s'affaiblit. Avant son hospitalisation le 14 février, on le voyait s'essouffler et se mouvoir avec difficulté, faisant usage d'un fauteuil roulant, nous délivrant par là même un message selon Marie Jotil, médecin et professeur émérite d'éthique à la faculté de théologie de l'université de Strasbourg et membre de l'Académie pontificale pour la vie.
À un moment donné, il ne pouvait plus marcher. Et ce qui m'a frappé, c'est son acceptation de la chaise roulante. Parce que c'est quand même une image, la chaise roulante. C'est accepter d'être dépendant. C'est montrer à tout le monde qu'on accepte de se reconnaître vulnérable. Et on voyait que dans cette vulnérabilité-là, il trouvait force et courage, même de voyager. Et ça, pour moi, c'est véritablement une attitude adulte. Une acceptation de la situation en acceptant de recevoir en Christ la force de la proximité avec tous. Lui parlait de l'odeur des brebis. Moi, j'ai envie de dire, rien que par sa vie, il a eu ce poumon enlevé quand il était jeune. Sa fréquentation des malades, cette chaise roulante. Aujourd'hui, cette longue hospitalisation, ben, j'ai envie de dire... Il prend l'odeur de l'hôpital, si je peux me permettre, pour se faire proche de tout le monde.
François dit d'ailleurs remercier Dieu qui lui donne l'opportunité de partager dans le corps et dans l'esprit la condition de toute personne malade.
La vulnérabilité, moi je la définis comme une porosité ontologique. C'est-à-dire que c'est par elle que Dieu entre d'abord en nous et nous entrons en Dieu. Et que nous sommes en relation les uns avec les autres. Ce qui fait qu'un croyant, a fortiori le pape, eh bien, il est réceptif à Dieu. Il ouvre toutes les portes de son cœur et ça le rend encore plus vulnérable. C'est vrai que dans cette situation qui est la sienne, non seulement il est malade, mais il ressent à travers sa vulnérabilité la maladie de tous les autres. Et en plus, il ressent quelque chose de la fécondité de la vulnérabilité en termes de proximité avec le Christ. Il goûte quelque part la chair du Christ. Il en a parlé à l'une ou l'autre fois. La chair du Christ est présente dans la chair des patients. Ce côté relationnel est absolument fondamental et il trouve sa force en cela.
Plus fort parce que vulnérable, pour reprendre le titre d'un de vos ouvrages, avec cet avertissement, il ne s'agit jamais, dites-vous, de consentir à la souffrance pour souffrir.
Chez lui, c'est tout à fait clair, hein, c'est une foi adulte, ce n'est pas du dolorisme. Un excès de souffrance doit être traité. Et ce qui me frappe aussi, c'est que durant tout ce mois d'hospitalisation, où il a eu quand même des traitements qui étaient, disons, pas toujours agréables, eh bien, son courage était toujours à l'ordre du jour. Il ne s'est pas, a priori, laissé abattre. Tous les jours, on entendait cette transparence responsable de nos communicants. Et même ça, c'est un point important. On a l'état de santé du pape parce que le pape l'a demandé. Et je trouve que c'est une attitude humainement et chrétiennement responsable.
Le contexte s'y prête, mais est-ce que finalement cette hospitalisation n'est pas une opportunité d'espérance?
Je crois que vraiment, oui, il nous offre des attitudes positives. Et l'espérance ne déçoit pas la présence de Dieu auprès de ceux qui souffrent. Il en avait parlé aussi dans la journée des malades, en rappelant cette phrase de Romains 5:5, l'espérance qui nous rend fort dans l'épreuve. Je crois que la vulnérabilité, c'est ça. L'évangile vulnérabilise. On est beaucoup plus réceptif à la souffrance quand on se consent vulnérable que quand on ne l'est pas. C'est tout cela, ne pas avoir peur de la vulnérabilité et vivre de l'espérance qui donne toute sa fécondité dans l'épreuve.
Interrogée par Marie Duhamel, Marie Jotil était ce matin l'invitée de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Au prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 13h, heure de Rome. D'ici là, une excellente journée à toutes et à tous.